Le Big Bang est-il remis en cause ? Jusqu'à aujourd'hui, on était persuadé que l'univers était né du Big Bang. Mais depuis quelque temps, beaucoup affirment que ce n'est pas le cas. Le Big Bang aurait pu ne jamais avoir lieu. On parle là d'une théorie très bien ancrée dans la cosmologie et qui n'a jamais été controversée, jusqu'à peut-être aujourd'hui. Mais alors comment se fait-il que certaines personnes puissent affirmer de telles choses ? Le Big Bang. Ce phénomène déjà bien prouvé retrace la naissance de notre univers, dans les moindres détails. Alors, a-t-il réellement lieu ? Que s'est-il passé pendant les premiers instants de l'univers ? Et si ce n'est pas le Big Bang, comment alors l'univers est-il né ? Le Big Bang, c'est le moment au tout début de notre univers. Le moment où d'un point infiniment petit et dense, il a grandi. C'est là où le temps a commencé à s'écouler et où l'horloge a commencé à compter les heures. Là où toute l'énergie de l'univers a subitement été libérée, puis convertie en matière quelques secondes plus tard. À partir de ce moment-là où les quatre dimensions de l'univers qu'on connaît aujourd'hui se sont étendues avec lui. Les premières particules élémentaires ont vu le jour, puis ont formé les noyaux atomiques. Et enfin, les atomes eux-mêmes. Seulement 380 000 ans après le Big Bang, la lumière a enfin pu voyager dans l'univers, puisqu'avant elle ne pouvait pas. Et les premières étoiles massives se sont formées, vivant pendant plusieurs millions d'années. Les premières galaxies se sont aussi formées, et c'est finalement 13,7 milliards d'années plus tard que nous sommes là. Donc on est là, ici présent, à se poser ce genre de questions. Mais tout ce que je viens de vous raconter serait peut-être donc en réalité faux. Tout ça, c'est faux. La question alors, c'est le Big Bang est-il vraiment remis en cause ? Si vous voulez plus de précision sur le début de l'univers, allez voir cette vidéo-là où j'explique très bien en détail le Big Bang. Bon alors, pourquoi est-ce qu'on dit que le Big Bang n'aurait jamais eu lieu ? Décembre 2021. La NASA lance le télescope James Webb. Il s'agit là d'un télescope qui orbite actuellement autour du Soleil et qui se trouve dans l'espace. L'avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas « gêné par le Soleil » entre guillemets, puisqu'il est en quelque sorte « dos au Soleil ». Il ne subit pas les effets de l'atmosphère terrestre et tous les problèmes météorologiques, puisqu'il est dans l'espace. Donc, c'est d'autant plus bénéfique pour faire des observations qui sont optimales. Avant James Webb, il y avait le télescope Hubble, qui est toujours en activité aujourd'hui. Mais ce télescope nouvellement lancé est encore plus performant, encore plus puissant et encore plus précis, pour voir plus loin et encore plus de choses. Vous le savez, la lumière a une vitesse. C'est pour ça que la lumière des étoiles qu'on voit dans notre ciel met un certain temps à nous parvenir. C'est la raison pour laquelle on voit des étoiles telles qu'elles étaient il y a plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années. En gros, plus un objet est loin, plus sa lumière mettra du temps à nous parvenir. Logique. Et donc ça veut dire que plus on observe loin, plus on voit dans le passé. Imaginez des extraterrestres qui observent notre planète et qui sont situés à 65 millions d'années-lumière. Eh bien, ils ne nous verraient pas nous, les êtres humains, mais ils verraient les dinosaures et plus particulièrement l'époque où l'astéroïde s'écrase sur Terre. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve fascinant. Si une étoile quelconque dans le ciel explose, eh ben on le verra que dans plusieurs centaines ou peut-être plusieurs milliers d'années selon sa distance. Un autre phénomène fascinant, c'est l'expansion de l'univers. Il existe par exemple des galaxies qu'on voit telles qu'elles étaient il y a 8 milliards d'années. C'est simplement parce qu'il y a 8 milliards d'années, elles se trouvaient à exactement 8 milliards d'années-lumière d'ici. Or aujourd'hui, elles se trouvent beaucoup plus loin puisque les distances entre nous et elles ont augmenté, ce qui est logique vu que l'univers est en expansion, et donc qu'elle s'éloigne. Mais je sais pas si vous arrivez à me suivre. Imaginez que vous avez un ami qui se situe à pile 1 milliard d'années-lumière de la Terre. Imaginez maintenant qu'il allume une lampe torche, on va dire qu'elle est aussi lumineuse que toute une galaxie, et qu'il la dirige en direction de la Terre. Et bien sur Terre, vu que notre ami est à 1 milliard d'années-lumière, on verra qu'il a allumé sa lampe torche seulement dans 1 milliard d'années. Et ça, c'est parce que la lumière aura mis 1 milliard d'années à venir jusqu'à nous. Mais sauf que, entre tout ce temps qui s'est écoulé, pendant ces 1 milliard d'années où on a attendu de recevoir cette lumière, notre univers s'est étendu. Et donc notre ami s'est encore plus éloigné de nous. À l'heure actuelle, peut-être qu'il n'est plus à 1 milliard d'années-lumière, mais peut-être qu'il est à 5 ou 6 milliards d'années-lumière. Et donc la lumière qu'il émet maintenant ne sera visible pour nous que d'ici 5 à 6 milliards d'années. Bref, tout ça pour vous dire deux choses. Plus on regarde loin dans l'univers, plus on voit dans le passé. Sauf que l'univers s'étend. En tout temps, en chaque instant. Et ça, ça a un impact. Le fait qu'un objet lumineux éloigné de nous s'éloigne ça va comme affaiblir sa lumière. À force de parcourir une trop grande distance, cette lumière, quand elle va arriver sur Terre, on va la voir un peu comme fatiguée. Et donc elle va paraître plus rougeâtre que ce qu'elle devrait être. Plus un objet lumineux s'éloigne de nous rapidement, plus il va se décaler vers le rouge. Jusqu'à parfois même devenir visible que dans l'infrarouge. C'est justement ce que permet d'observer le télescope James Webb. Ce télescope-là nous permet donc de voir des galaxies extrêmement lointaines, seulement visibles dans l'infrarouge. Et ça, c'est incroyable. Là, vous vous dites peut-être que ça n'a aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais vous allez voir juste après. Le 11 avril 2022, Eric Lerner, un scientifique américain, sort un article intitulé « Le Big Bang n'a jamais eu lieu ». Bon, ça va sans dire, cet article a donc fortement été critiqué. Eric Lerner, il est un peu considéré comme un pseudo-scientifique qui reste obstiné sur sa manière de penser. Il affirme certaines choses qui sont totalement absurdes et il va donc affirmer que le Big Bang n'a jamais eu lieu. Mais avec quelles preuves ? Dites-vous même qu'il utilise des arguments infondés qui ont été réfutés il y a plusieurs années déjà. Bref, vous l'aurez compris, cette personne n'est pas la plus appréciée de la communauté scientifique. En novembre 2022, James Webb nous sort des clichés du ciel profond qui sont sublimes et qui nous apprennent beaucoup sur notre univers. Dans ces photos, les astronomes parviennent à identifier des galaxies. Mais il s'agit là de galaxies très petites qu'on n'a encore jamais vues. Elles sont même si loin qu'on estime qu'elles sont nées entre 350 et 450 millions d'années après le Big Bang. Étrangement, ces galaxies paraissent lisses, bien ordonnées et bien structurées. Et ça, c'est un véritable choc. On ne s'attendait absolument pas à observer ça. Comme le résultat est nettement différent de celui auquel on s'attendait, certains détracteurs vont utiliser cet argument pour appuyer leur pensée. Et donc que le Big Bang n'a jamais eu lieu puisqu'on observe des galaxies dans une période de l'univers où il ne devrait justement pas y en avoir. Bref, et donc beaucoup de personnes en arrivent à la conclusion, le Big Bang n'a jamais eu lieu. Et je le rappelle, cette théorie est aujourd'hui très ancrée puisqu'elle décrit très bien les observations qu'on fait de notre univers. Comme je vous l'ai dit, notre univers est en expansion. Et ce simple paramètre-là est une observation qui renforce la théorie du Big Bang. Nous sommes en 1929. À cette époque, Edwin Hubble travaillait à l'observatoire du Mont Wilson en Californie. Pendant plusieurs années, l'astronome avait étudié les galaxies et il cherchait à en faire une classification. Mais il arriva un jour qui allait être totalement différent des autres. Après avoir bu sa tasse de café et discuté avec quelques collègues, Edwin entre dans la salle d'observatoire où y était disposé le télescope Hooker. Ce jour-là, comme les autres jours, il cherchait la relation qu'il pouvait y avoir entre la distance des galaxies et leur vitesse. Et soudain, il trouve sa réponse. Il remarqua que toutes les galaxies lointaines dérivaient vers le rouge. Plus les galaxies étaient lointaines, plus elles dérivaient vers le rouge. En fait, ça voulait juste dire que toutes les galaxies lointaines s'éloignaient de nous. Et plus elles étaient loin, plus ce phénomène s'accentuait. Edwin Hubble venait donc de trouver l'expansion de l'univers. Tout notre univers s'étend de tous les côtés, dans toutes les directions. Et c'est ainsi qu'il en est venu à renforcer la théorie du Big Bang. En calculant cette vitesse d'expansion et en faisant le chemin inverse, on revenait à un point singulier où tout l'univers était lié. Ce point, c'était il y a 13,8 milliards d'années, au moment de la naissance de l'univers. Alors, l'expansion de l'univers, ça constitue une preuve, mais qui n'est pas la seule. Un peu plus tard, on se retrouve en 1965. Un matin un peu brumeux, Arno Spenzias et Robert Wilson, qui étaient deux physiciens très curieux, travaillaient à l'antenne du laboratoire de Bell, dans le New Jersey. Mais sauf qu'ils rencontraient des problèmes dans leurs recherches. Ils avaient en fait dans leur mesure comme un bruit de fond omniprésent qu'ils n'arrivaient pas à enlever. C'est comme si vous enregistriez votre voix avec un micro, mais qu'en arrière-plan vous avez comme un bruit de fond que vous n'arriviez pas à enlever. En parallèle, de nombreux théoriciens avaient mis en évidence le fait que si le Big Bang avait eu lieu, alors il devait y avoir comme des traces, comme un résidu, comme l'écho du Bang. En discutant de ça, Arno Spenzias et Robert Wilson se sont posé quelques questions. Et ils ont décidé de faire appel à ces mêmes théoriciens pour en savoir un peu plus. Après une étude un peu plus approfondie, ils se sont rendus compte de quelque chose. Et si ce simple bruit de fond était en fait quelque chose de bien plus grand ? Comme par exemple le rayonnement fossile au fin fond de notre univers, laissé par le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Eh bien oui, c'était ça, il s'agissait du fond diffus cosmologique. Ça correspondait à un brouillard situé au fin fond de l'univers observable. Un moment où la lumière avait été émise pour la toute première fois. C'était 380 000 ans après le Big Bang, où la lumière avait enfin pu voyager dans l'univers. C'est cette époque qui correspond au fond diffus cosmologique. Et celui-ci, on peut le détecter partout, dans toutes les directions. Il s'agit là donc de l'empreinte du Big Bang. Ça montrait donc un univers primitif extrêmement chaud et chaotique, à l'époque de la formation des premiers atomes. Tout ça donc, c'est encore une nouvelle preuve du Big Bang. Mais aussi autre chose, c'est l'abondance d'éléments légers dans l'univers. Mais ça, peut-être que vous le savez déjà. La majorité de la matière ordinaire présente dans notre univers est en grande partie de l'hydrogène et de l'hélium. Ces éléments-là ont seulement pu se créer lors de la nucléosynthèse primordiale. Une période où les atomes les plus légers se sont formés, seulement quelques minutes après le Big Bang. Et comme le prédisait la théorie du Big Bang, on retrouve bien tous ces éléments-là dans l'univers et en grande quantité. Et donc là, on a les trois observations qui peuvent seulement être expliquées par la théorie du Big Bang. Encore aujourd'hui, aucune autre théorie ne permet de mieux expliquer ces observations-là. Donc la théorie du Big Bang est bien vraie et vérifiée pour le moment. Alors oui, il y a encore quelques zones de flou. Par exemple, on ne sait pas qu'est-ce qui a déclenché le Big Bang, ou même ce qui aurait potentiellement précédé le Big Bang. Pour remédier à ce problème, on a pu élaborer d'autres théories qui l'expliquent, mais c'est pas confirmé et peut-être que ça le sera jamais. L'une d'entre elles est très intéressante et elle résout plein d'autres problèmes, c'est la théorie des cordes. Pour ceux qui veulent, j'en ai parlé pendant 30 minutes dans cette vidéo-là, et elle est très intéressante, vous allez voir. Il y a aussi les théories d'un modèle cyclique. On parle là donc d'un univers qui naît, qui meurt, et qui naît à nouveau. Notre univers pourrait par exemple très bien mourir du Big Crunch. Une fois qu'il se serait assez tendu, il pourrait très bien s'effondrer sur lui-même. La force gravitationnelle prendrait le dessus, condensant toute la matière de l'univers en un seul point. Comme au début, on assisterait à un nouveau Big Bang, qu'on appellera cette fois-ci un Big Bounce. Cette théorie-là, par exemple, elle nous permet d'expliquer ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire donc, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Eh bien, il y avait un autre univers. Mais il y a autre chose qu'on ne sait pas avec certitude, autrement que par des hypothèses. C'est le comportement de notre univers à ses débuts. Qu'est-ce qu'il en était de l'univers 300 millions d'années après le Big Bang ? Comment se sont créées les premières galaxies et les premières étoiles ? Répondre à cette question, c'était justement une des missions de James Webb, comprendre l'univers lorsqu'il était encore très jeune. D'après les hypothèses qu'on se faisait d'un univers primitif, on pensait à un univers totalement chaotique, avec seulement quelques galaxies qui commençaient à peine à se former. Mais cette découverte qu'on a fait donc en novembre 2022 nous en apprend beaucoup plus. Sur l'image, les astronomes détectent des galaxies en grande quantité, toutes parfaitement formées, qui seraient nées environ 300 millions d'années après le Big Bang. Et justement, on s'attendait pas du tout à ça. On pensait pas du tout que de telles galaxies pouvaient se former dans un univers aussi jeune. À cette époque, notre univers devait être chaotique avec seulement quelques étoiles et quelques galaxies qui commençaient à peine à se former. Alors une question qu'on peut se poser, c'est comment on sait qu'elles sont aussi loin ? Comme je vous l'ai dit, plus un objet est loin et s'éloigne de nous, plus il se décale vers le rouge. Et donc on a pu trouver une relation en mesurant ce décalage vers le rouge et la distance avec ces galaxies. Le décalage vers le rouge, c'est le redshift, et donc plus un objet est loin, plus son redshift est élevé. En analysant la lumière de ces jeunes galaxies, on obtient un redshift compris entre 10,5 et 12,5, ce qui correspond donc à une époque très jeune dans l'âge de l'univers, entre 350 et 450 millions d'années. Une autre interrogation qu'on a, c'est comment se fait-il que ces jeunes galaxies soient aussi lumineuses ? Parce que oui, dans les observations qu'on a faites, on voit qu'elles sont très lumineuses et très massives. Dans l'univers primitif, tout était plus chaud et plus dense qu'aujourd'hui. On peut donc très bien penser que l'univers n'avait pas de mal à produire des étoiles qui étaient très massives. On pense que ces galaxies-là sont constituées d'étoiles très massives, et donc très brillantes, avec des températures complètement folles. Ces étoiles-là feraient partie du groupe de population 3. On parle là d'étoiles mille fois plus massives que le Soleil, des centaines de millions de fois, voire des milliards de fois, plus lumineuses que notre étoile. Ce qui rendrait donc ces jeunes galaxies très brillantes, malgré leur petite taille. Dites-vous que si l'univers était jusqu'à aujourd'hui un film de 2 heures, alors les premières galaxies se seraient formées dans les 5 premières minutes. C'est justement ça qui nous paraît complètement fou. Ça modifie totalement notre perception de l'univers primitif, et ça remet en cause beaucoup de pensées. Au fil du temps, les galaxies ont gagné en masse, et surtout en taille. Puisque presque 700 millions d'années après le Big Bang, on commence à observer des galaxies ayant la même masse, plus ou moins, que notre propre galaxie, la Voie lactée. Bref, le but principal d'une théorie, c'est d'être remise en cause. Les astrophysiciens cherchent constamment à mettre à mal la théorie du Big Bang. Et pourtant, on n'a jamais réussi à le faire. Les observations qu'on fait aujourd'hui ne veulent absolument pas dire que le Big Bang n'a pas eu lieu, mais seulement que les premières galaxies sont apparues un peu plus tôt que ce qu'on pouvait penser. Beaucoup se servent de ces observations-là pour faire approuver leur avis. Alors que vous ne croyez pas au Big Bang, ok, mais dans ce cas, c'est ignorer les preuves observationnelles qu'on a. Comment est-ce que vous expliqueriez l'expansion de l'univers, le fond diffus cosmologique ou l'abondance d'éléments légers dans l'univers? On n'est pas sûr à 100% de l'âge de ces jeunes galaxies et d'autres mesures sont encore à effectuer. Bref, vous l'aurez compris, ce genre d'observation ne permet pas de renverser la théorie du Big Bang. Elle nous apprend simplement plus de choses sur l'univers à ses débuts. Sachez d'ailleurs que je suis parti avec toute une équipe faire l'ascension d'un sommet en Suisse pour voir des étoiles qui sont en fin de vie. On a vu des rémanents de supernova oufissimes et des nébuleuses planétaires, enfin bref, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. Merci d'avoir suivi celle-ci, c'était Zebrolos.